Mais qu'est-ce que je vois?
Peut-être un message. Faites vos éclairs vous-même. Nous, on aimerait aller à la plage. Quelle toupie!
Les bourgeois n'ont jamais rien inventé!
Les bourgeois!
Attends. Je voudrais te demander un truc. C'est pas très normal.
On s'en fout d'être normal.
Does it make you remember anything?
Mais j'ai bien compris, hein, bien compris. Tu me prends et tu me jettes comme un vieux mouchoir.
Pourquoi vous n'avez pas donné plus d'explications?
Celui qui parle vraiment sent s'imprimer sur sa langue le goût aigu du piment et la douceur de la mangue.
C'est bon, tu l'as assez, range ton cahier.
À rebrousse-poil, quelques pas d'exploration documentaire.
Je m'appelle Elsa, j'ai bientôt 27 ans et tu concluras que j'ai un prénom, on va dire, de fille et j'ai pas franchement une voix qui correspond socialement à ce qu'on appelle une fille. Je suis donc une personne trans. Et c'est un peu l'objet de la discussion aujourd'hui, on va parler un peu de tout ça.
Alors, t'as rédigé un lexique sur les transidentités, ou bah, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire être transgenre?
Alors, qu'est-ce que c'est qu'être transgenre? Être transgenre, c'est être de fait en décalage entre l'identité que l'on est dans la tête, donc l'identité de genre. On peut être un garçon, on peut être une fille, on peut être une femme, on peut être un homme, mais on peut être aussi ni l'un ni l'autre, on peut être les deux, on peut être entre les deux. Être transgenre, c'est constater le fait que l'identité qu'on est en soi n'est pas l'identité qu'il y a sur les papiers d'identité qui correspondent à la personne qu'on nous a assignée en termes de genre à la naissance.
Cette assignation de genre à la naissance, comment elle se fait ?
Alors, quand on apparaît un peu dans le monde, en général, on est tout nu ou toute nue. Et en fonction de ce qu'il y a entre nos jambes, à savoir l'appareil génital, on nous assigne un genre. En général, on regarde l'appareil génital et s'il ressemble plus ou moins à un pénis, on va dire qu'on est un garçon. Et si ce qu'on a entre les jambes ressemble plus à une vulve ou à un vagin, on va nous assigner comme étant une fille. Sauf que tout ça c'est social, même si de fait c'est du concret et que ça existe physiquement, on l'analyse de manière sociale en deux catégories, garçon, fille. Et les choses sont pas si simples parce que physiquement un garçon n'existe pas, le pénis parfait n'existe pas, on a tous des sexes qui sont complètement différents, de même pour la vulve, et il y a du coup tout un curseur à déplacer entre le pénis dit parfait et la vulve dit parfaite. Et de fait, il y a donc tout un ensemble d'appareils génitaux qui ne sont ni proches de ce qu'on appellerait le sexe de garçon et de ce qu'on appellerait un sexe de fille. À côté de ça, du coup, il y a d'autres critères qui permettent d'assigner un genre. Et c'est tout aussi horrible, c'est tout aussi social. On peut suivre du coup le karyotype, qui est du coup l'ensemble des chromosomes que comporte la personne. Regarder la présence du fameux XX pour une fille, entre guillemets, et... XY pour l'autre genre social, bah là c'est pareil, il y a quantité de génomes différents, il y a quantité de personnes qui sont ni XX ni XY, et pourtant on va quand même rendre dichotomique en deux catégories les personnes comme étant soit d'un côté soit de l'autre, alors qu'en fait bah, c'est encore un cursus. Et ce cursus-là, il existe aussi pour les taux hormonaux, et il existe aussi pour tous les caractères sexués secondaires qu'on verra apparaître plus tard, donc la présence de poils, la présence de poitrine, la présence de muscles, ou je sais pas quoi, de capacité physique, ou ce genre de choses qu'on va assigner comme étant plus garçon, plus fille, plus masculin, plus féminin. En tant que personne trans, en tant que personne militante, il va de soi que tout ça, c'est purement social, et qu'on va se battre contre une vision binaire des genres qui est en plus imposée par un monde médical et donc quelque chose qui du coup ne nous correspond pas, qui est juste de l'assignation et du coup une imposition, et on est contre l'imposition.
Du coup, être cisgenre, c'est quoi et est-ce que c'est un privilège ?
Alors, être cisgenre, c'est, on va dire, l'inverse d'être transgenre. Si être transgenre, c'est être en décalage entre l'identité de genre et l'identité qu'on nous a assignée à la naissance. Être cisgenre, c'est toutes les personnes qui, du coup, sont en adéquation entre la personne qu'elles ressentent être à l'intérieur et la personne qu'on leur a dit qu'elles étaient dès la naissance. De fait, c'est la majorité de la population, mais c'est aussi le résultat d'un monde qui est cis-centré et cis-normatif. Ça veut dire qu'une personne qui a assigné fille à la naissance parce qu'elle avait une vulve, ou un appareil génital qui était plus proche de la vulve que du pénis, on va l'éduquer en petite fille, et de fait, moi je trouve qu'il est normal que du coup une grande majorité des personnes qui sont élevées en petite fille se sentent petite fille. Parce qu'il y a un caractère normatif dans l'éducation et la socialisation qui va se faire autour de cette personne. Est-ce que c'est un privilège ? Oui, parce que de fait, les personnes cisgenres ne sont pas confrontées aux problèmes auxquels sont confrontées les personnes qui sont pas cis. Donc j'entends par là les personnes trans et les personnes qui se définiront pas comme trans, mais en tout cas qui ne sont certainement pas cis et qui du coup vont rencontrer au cours de leur parcours et au cours de leur vie dans leur environnement de vie, dans leur famille, dans leur relation aussi au monde du travail, tout un ensemble de problèmes et de soucis qui sont là majoritairement quotidiens et assez douloureux que les personnes cisgenres ne vont pas connaître.
Bang, bang !
D'après toi, je suis un garçon ou une fille ?
T'as 7 ans, Ludo, hein ? Et à 7 ans, ben, on se déguise plus en fille, même si tu trouves ça très amusant.
Tu ne te déguises pas en fille avec Jérôme. D'ailleurs, tu ne te déguises en fille avec personne.
Un garçon-fille.
Un garçon-fille, Ludovic.
C'est Dieu qui s'est trompé en m'envoyant mes X de fille. Il y a un grec qui est venu à la place dans la cheminée. C'est scientifique.
Là, regardez, il y a la chouchotte qui nous fait encore ses manières.
C'est quoi une tapette ?
Ça, c'est une tapette !
C'est pas grave, c'est oublié. Il faut repartir sur de nouvelles bases, hein. Ludovic, qu'est-ce que tu veux ?
Allez, en jupe à l'anniversaire de Sophie.
J'avais dit de pas recommencer. Mais t'as vraiment décidé de nous gâcher la vie, c'est ça ? Hein, tu peux pas nous laisser en paix, hein ?
Les personnes trans, la plupart du temps, parce que c'est pas tout le temps le cas, ont des problèmes, on va dire, de dysphorie, ça veut dire que le décalage entre la personne qu'elles sont au plus profond d'elles-mêmes, donc qu'elles sont, qu'elles incarnent, et la personne qu'elles sont socialement, on va dire, par leur représentation ou par leur corps, ne sont pas la même. À savoir que moi, par exemple, je suis une fille ou une femme. Enfin, c'est pareil pour moi, mais... Mais je t'avoue que quand, il y a 5 ans, je faisais... 110 kilos, que j'étais du coup une personne qui correspondait avec on va dire socialement à un corps de viking, parce que j'étais extrêmement carré, musclé, avec un gros ventre et tout, et que j'avais une grosse barbe, je galérais sévère à faire croire aux gens que j'étais une femme. Donc déjà ça, c'est une douleur au quotidien, mais qui se fait vraiment sans personne autour, c'est une douleur entre soi et le corps qu'on peut avoir. Après, une fois qu'on est... on va dire, un peu plus publiquement exposé comme en décalage. Par exemple, moi, si je sors en robe, même si aujourd'hui, je n'ai plus de barbe et que j'ai plus vraiment un corps de viking, ça va engendrer d'autres problèmes qui vont être des problèmes en interaction avec autrui. Ça va être, du coup, des mauvais regards, des vieilles vannes, des insultes, des crachats, des coups. Ça va être un rejet social, ça va être, de la violence normative. En mode, toi, tu ne corresponds pas à la norme, on va te le rappeler par une méthode X ou Y qu'il faut que tu rentres dans cette norme-là, quoi. Mm-hmm. Tu as un pénis, assume, ne mets pas de robe. Voilà, c'est un peu ça.
Une femme, c'est comme ci. Un homme, c'est comme ça. Ta gueule, le psy, tu nous fatigues. Le psy, c'est l'enfer. Trans, en colère. Le psy, c'est l'enfer. Trans, en colère. Trans psychiatrisé. Trans assassiné. France, on meurt, et le silence demeure.
Bonjour, alors, aujourd'hui c'est l'existence, la marche pour les personnes trans et ceux qui les soutiennent. Donc aujourd'hui c'est un mot d'ordre contre la stérilisation forcée pour le changement d'état civil, parce qu'aujourd'hui en France, L'État français demande encore aux personnes trans de se faire stériliser définitivement afin de pouvoir changer d'état civil.
Je suis fier d'être trans, je me cache pas, je marche pas en longeant les murs. Je marche dans la rue, voilà, je vis. Et comme je vis, bah voilà, j'ai besoin d'avoir des documents officiels.
Est-ce que tu pourrais parler de ton parcours dans l'affirmation de ta transidentité ?
Je sais juste que vers 19 ans, j'ai eu une révélation suprême en parlant avec une personne trans pour la première fois de ma vie. Parce que j'ai grandi un peu à la campagne, donc isolée. Et dans un monde, comme encore une fois, cis, normé et hétéronormé en plus. Du coup, j'avais pas franchement de personne référente pour pouvoir me créer des ponts entre la personne que j'étais, qui était du coup une personne en recherche d'identité, et des personnes qui auraient pu être là pour me dire, bah, écoute, telle alternative existe. Et ça, je l'avais pas. Et j'ai rencontré l'alternative qu'à 19 ans, et je me suis rendu compte que du coup, j'étais une meuf. Et j'ai trouvé ça affreusement difficile, ce qui fait que je me suis donné 3 ans pour essayer de tuer la meuf qui était en moi et en essayant d'être extrêmement masculine. J'ai cultivé un corps qui était masculin socialement, donc j'ai pris beaucoup de poids, j'ai pris beaucoup de muscles, je me suis laissé pousser la barbe. Socialement aussi, je me suis imposé aux autres, à savoir que j'avais une vie associative et militante dans mes études supérieures. Et j'ai pris toute la place que je pouvais prendre. Ça veut dire que si j'étais dans 8 associations, j'aurais fait le maximum pour être président officiellement dans les 8 associations, et que ce soit moi qui prenne les rênes tout le temps, et que ce soit moi qui prenne tout l'espace. Concrètement, un rôle qu'on peut décrire comme étant masculin relou. Si tu me vois aujourd'hui, je suis plus du tout comme ça, parce que ça veut dire qu'au bout des 3 ans, j'ai fait le constat que c'était bien tenté, mais que non, ça marchait pas. Et que du coup, il fallait faire autre chose, à savoir se faire du bien et faire un travail sur le corps pour que je sois un peu plus en paix. Et c'est aujourd'hui le constat que ça marche. Et c'est ce qu'il fallait faire.
J'étais la première fille trans que vous rencontrez.
Sophie Labelle.
Ou peut-être que vous avez des amis qui sont des filles trans. Ou peut-être que vous connaissez des gens qui sont des filles trans. Peut-être que vous connaissez des gens qui sont des filles trans. Puis que vous le savez pas. Vous le savez même pas.
On vit dans une culture cis normée, cis centrée et cis normative. C'est des beaux mots, mais ça veut dire que c'est un monde de personnes cisgenres qui ne savent pas ce qu'est l'alternative. À la cis-identité, du coup, qui, quand traite de cette alternative, donc des personnes trans, va plutôt traiter d'un fantasme social qui gravite autour de ces personnes et va pas franchement traiter de réalités qui sont concrètes et pourtant accessibles, puisque des personnes référentes, il y en a. C'est pour ça que, si on regarde, on va dire, un rapide coup d'œil sur les médias, donc journaux et émissions de télé, machin truc, où il y a des personnes trans qui interviennent, ou on va dire qu'ils sont plutôt fétichisés et théorisés, ça va être d'abord des meufs trans et il n'y aura pas autre chose. Et ça sera des meufs trans qui seront du coup encore dans le monde du fantasme, donc dans le monde de la prostitution, de la sexualité. Voilà, ça veut dire qu'on va sexualiser ces personnes-là, on va les rendre irréelles et concrètement c'est pour faire de l'omnidimat et ça ne représente pas grand-chose d'une réalité, même si de fait dans le monde trans, il y a beaucoup de prostitution, c'est pas du tout parce que les personnes trans sont sexualisables ou sont plus sexuées ou plus je sais pas quoi que les autres. C'est juste qu'il y a certaines réalités sociales qui font mal, à savoir que les personnes trans n'arrivent pas à trouver un travail et que malheureusement une quantité de personnes trans se retrouvent dans des grandes difficultés de logement, des grandes difficultés économiques et se tournent vers la prostitution. Si le monde n'était pas transphobe, actuellement, je serais encore maîtresse d'école. L'année dernière, je l'étais encore, même si je me faisais encore passer pour maître. C'est ça, le parcours trans, c'est que j'étais obligé de me faire passer pour un maître d'école, parce que je savais très bien que si je me faisais passer pour... Enfin, que je me faisais pas passer, que je déclarais officiellement que j'étais maîtresse d'école, les gens refaient le lien entre personne trans égale une personne pédophile, parce que dans le milieu de l'enfance... C'est, on va dire, une image qui traîne. ça aurait été ça. Ça veut dire que je me suis fait appeler maîtresse ou madame une demi-journée sur un an d'enseignement. Cette demi-journée m'a valu du coup trois rencontres avec des parents d'élèves qui étaient horrifiés que j'ai pu faire ça. Et je l'ai fait genre pendant 3 heures avec un caractère de jeu avec les enfants. Du coup, c'était pas du tout pris au sérieux. Mais ces personnes-là avaient tellement peur que je puisse être une personne déviante, une personne transsexuelle, et donc du coup pédophile, encore une personne issue de leur fantasme. Et l'éducation nationale, qui est là du coup un monde de fonctionnaires, donc d'État, ce qui veut dire que c'est un monde qui est du coup directement issu de la hiérarchie et des grandes élites de la nation, machin truc, et qui du coup est représentatif du monde dans lequel on vit, sous couverture d'ouverture et d'égalité des chances, tout ce blabla, et qui est bien mignon, mais qui correspond pas à grand chose concrètement dans la réalité, est encore extrêmement conservateur. À savoir que même une personne, un homme cisgenre homosexuel, n'a pas intérêt à déclarer qu'il est homosexuel, parce que encore aujourd'hui, en 2015, les parents d'élèves vont lier homosexualité cis et pédophilie. Donc voilà, c'est ça, c'est endurer cette peur-là au quotidien des réactions des autres, et du coup d'être obligé de se cacher et être obligé de se faire passer pour une personne qu'on n'est pas, à savoir une personne cis. Moi je sais que j'aime beaucoup être en robe, j'aime beaucoup porter ce genre de vêtements, mais si je vais dans la rue habillée comme ça, c'est extrêmement dangereux. En un an, je suis allé 4 fois à l'hôpital, parce que j'ai osé ouvertement me déclarer comme étant une meuf. Et ça m'a conduit à différentes agressions, notamment une relativement grave. Voilà, c'est ça au quotidien. Et je parle même pas des personnes qui se foutent de ta gueule quand tu passes, des regards, du décrochage complet du reste du monde. C'est-à-dire que dès que moi j'ai commencé à dire à mon entourage que j'étais une meuf, j'ai perdu tout le monde. Ça veut dire que j'ai perdu ma famille, ça a entraîné des menaces de mort d'ailleurs. J'ai perdu tous mes amis avant l'âge de 23 ans, date de mon coming out. J'ai perdu mon travail, j'ai dû me cacher dans une autre identité pendant des années. C'est ça la transphobie, c'est pas que les coups, c'est vraiment un rejet structurel, quoi. C'est douloureux, et je suis encore là aujourd'hui, j'ai une patate d'enfer, j'ai envie de changer les choses. C'est parce que j'ai réussi à me trouver un espace, j'ai réussi à me trouver des milieux de vie, des milieux militants dans lesquels je suis Elsa, et c'est ouvertement absolument pas un souci, et c'est vraiment des endroits où on peut s'exprimer, où on peut vivre, où on peut militer et le mettre en avant. C'est une chance pour moi. Quantité de personnes trans n'ont pas cette chance là et ne sont pas là actuellement, parce que la transphobie ça fait des meurtres et ça pousse aussi au suicide, et chaque suicide de personnes trans est un meurtre sociétal, et j'ai des copines qui sont plus là aujourd'hui.
On a des violences.
Hélène Azéra sur TV5.
Ou en tout cas régulièrement. À Limoges, vous avez Mylène qui s'est fait assassiner à coups de marteau dans le visage. Ça fait 5 lignes dans le journal local où on parle d'elle au masculin, et ça n'arrive pas à la presse nationale. Vous avez à Rouen Cassandra, qui était travailleuse du sexe péruvienne, égorgée. On jette de l'essence sur son cadavre, on allume. Pareil, 5 lignes dans le journal local où on l'appelle au masculin. Et voilà.
Est-ce que c'est problématique d'utiliser le terme transsexuel ?
Personnellement, dans mon militantisme, c'est un terme que je vomis. Je sais que c'est pas le cas de tous les courants militants. En tout cas, dans mon militantisme et dans les milieux dans lesquels j'agis et je vis, globalement, il y a un consensus pour rejeter ce terme pour plusieurs raisons, à savoir que on va pas dire déjà qu'une personne cis est une personne cissexuelle, on va dire cisgenre, mais parce que Le fantasme autour des personnes trans n'existe pas autour des personnes cis. Et le terme transsexuel, pour moi, c'est déjà rajouter du fantasme érotique autour de cette personne qui n'existe pas. Et puis de fait, c'est un terme qui découle aussi des équipes médicales qui, quand ces personnes-là analysent nos vies, nous catégorisent encore comme malades mentales et comme atteintes de transsexualisme. Et du coup, en découle le terme transsexuel, qui du coup fait penser à une maladie. Or, je ne suis pas malade. Et deuxièmement, il y a sexuel, ça fait encore penser que l'identité de genre serait liée à une quelconque orientation sexuelle ou sentimentale. Ce qui n'est pas le cas, il n'y a pas de lien. Ça fait penser que toutes les personnes trans sont des personnes qui ont un rapport concret à leur appareil génitaux, et notamment en termes de finalité de transition, cette finalité, ce serait du coup d'agir sur cet appareil génital, au sens de, on va la réassigner, donc en gros, on va changer l'appareil génital d'un pénis vers une vulve ou d'une vulve vers un pénis. Or, ce n'est pas du tout la finalité de toutes les transitions. Toutes les personnes trans ne transitionnent pas, déjà, de fait. Beaucoup de personnes trans sont en paix avec leur corps et ne veulent pas agir dessus, en tout cas pas de manière hormonale. Et beaucoup de personnes trans se contentent aussi d'une transition hormonale sans aller vers une opération quelconque et sans aller vers une opération de réassignation génitale. Donc le terme transsexuel, pour moi, ça reflète tout ça et ça reflète avant tout un mot qui est imposé par des équipes officielles de personnes cis du monde cis normé et qui reflète aussi une méconnaissance complète des volontés des personnes trans.
Et justement, est-ce que tu peux développer le parcours psy en fait qu'il y a à effectuer dans le cadre d'une transition
Après, je ne suis pas experte sur les textes de loi parce que c'est plutôt une question douloureuse, du coup je ne vais pas me faire du mal avec ça, mais mon parcours tel qu'il est aujourd'hui, je suis passé par plusieurs années douloureuses de recherche d'identité. Une fois qu'on a trouvé cette identité, il faut réussir à s'affirmer avec, et ça prend déjà plusieurs années. Et si on fait le choix de faire une trajectoire de transition hormonale, il faut faire plusieurs étapes. Déjà, rencontrer les bonnes équipes médicales, parce qu'il y a quantité de médecins ou d'endocrinos, qui sont les médecins spécialisés en hormones, qui sont transphobes et ne vous aideront pas, voilà. Ou alors, vont vous faire endurer 1000 calvaires pour vous donner un truc ou un traitement qui serait automatique chez certaines autres personnes du milieu médical. Donc il faut déjà commencer par connaître un réseau, voilà. Parce qu'il faut notamment passer par la case psy pour avoir un certificat de transsexualisme, qui est une chose horrible politiquement, mais ce certificat, ce petit bout de papier à la con, permet d'accéder à toutes les autres étapes. Et j'ai entendu des témoignages de personnes trans qui sont passées chez des psys qui les ont fait poireauter pendant 2 ans avec des questions freudiennes en mode est-ce que tu fantasmes sur ton père, est-ce que tu fantasmes sur ta mère, parce que t'es une personne trans, du coup tu dois avoir des trucs bizarres dans ta tête et des fantasmes complètement tordus, blabla. Donc si les personnes étaient déjà mal en arrivant dans leur cabinet, j'imagine qu'au bout de 2 ans de questions complètement tordues comme ça, elles le seront encore plus. Et en plus, au bout de 2 ans, c'est même pas sûr d'avoir le certificat. Donc l'importance des réseaux, d'où l'importance de connaître des personnes référentes. Ce qui est le cas de peu de personnes trans malheureusement, et c'est déplorable. Par exemple, moi j'ai eu la chance de connaître du coup un réseau, et j'ai pu avoir ce fameux certificat en un quart d'heure. Voilà, je suis arrivé, elle m'a dit, la personne m'a appelé Elsa dès la salle d'attente. Je me suis calé dans le fameux fauteuil machin, c'était très agréable, j'avais jamais fait ça de ma vie. On a discuté 5 minutes, j'ai signé le papier, elle l'a signé aussi, et voilà, c'est fini. C'est le monde cis qui va confirmer qu'on est nous, personnes trans, comme étant atteintes de transsexualisme. Comme si nous, on n'était pas à même de pouvoir nous le confirmer et de débarquer chez un médecin généraliste et dire « Écoutez, mon rapport au corps fait que, mon parcours d'identité fait que j'ai envie d'accéder aux hormones. » Et actuellement, ça, c'est pas possible. Et donc, on a besoin d'être validé par le monde cisgenre. Ce qui est une horreur, mais on va se battre pour que ça change. Mais actuellement, c'est une étape qui est incontournable et douloureuse. Et il faut, du coup, être stérile pour prétendre à changer ses papiers d'état civil, à savoir que il faut soit se faire une opération de réassignation, soit se faire une opération pour se faire stériliser, comme une ablation des testicules ou, je sais pas moi, ligaturer les trompes ou ce genre de choses. Encore une fois, il y a quantité de personnes trans qui souhaiteraient changer leur état civil, donc passer de madame à monsieur, de monsieur à madame. Il n'y a que deux catégories dans les papiers d'identité et tous les autres, et qui ne veulent pas du tout être stériles. Ces personnes-là souhaitent d'abord utiliser encore leur appareil génital, souhaitent avoir une libido qui soit encore fonctionnelle, parce que je vous avoue qu'avec un traitement hormonal, la libido, c'est pas ce qu'il y a de plus vivant. Et puis il y a des personnes aussi qui veulent se reproduire, avoir des enfants, on va dire avoir une vie un peu plus un peu normée, mais c'est leur droit, si c'est leur ressenti. Et ces personnes-là, actuellement, en sont privées. C'est quand même douloureux quand on sait que les dernières personnes qui étaient stérilisées de force, c'était les personnes qui étaient malades mentales pendant la Seconde Guerre mondiale. Et si on trouve ça horrible aujourd'hui, personne s'indigne pour le parcours des personnes trans actuellement, 70 ans plus tard.
Au début, quand je t'ai vu, Fred, j'ai pensé que ça s'en irait. Je t'aime tellement.
Ça fait 35 ans que je vis comme ça et c'est un crime.
Je comprends pas.
C'est très important, faut que ça sorte, faut que je te le dise. Je vais mourir si je te le dis pas.
Tout ce que moi j'aime de toi, c'est ce que toi tu détestes de toi. C'est ce que tu me dis.
Tu veux que je réagisse comment, Laurence?
T'es pas surprise?
Tu crois que je vais me martyriser? Je vais me dire que je suis une mauvaise mère? Et ton père?
Ça va?
Quel père?
Tu me mens depuis 2 ans.
Non, j'ai pas menti. J'ai juste rien dit.
Il savait très bien que cette révélation te ferait fuir.
Je vous ai pas vu rentrer ce matin. C'est une révolte.
L'Ancien, c'est une révolution.
Y a rien, ni personne qui parle de cette histoire.
Sauf toi, Laurence.
Non, sauf toi.
C'est toi qui as voulu ça, Laurence. On l'a fait, on a essayé, mais tu peux pas tout avoir.
J'ai choisi de descendre la pente dans la peau d'une femme.
Toutes les femmes la descendent.
Après l'avoir montée.
T'as-tu déjà acheté une perruque pour ton chum, toi? T'as-tu déjà eu peur quand tu sors de chez vous qu'il se fasse tabasser dans la rue et qu'il t'en revienne pas en un morceau?
Pourrait développer sur le cissexisme.
Alors, comme je l'ai déjà raconté, on vit dans un monde cis-centré. On va dire que ça veut dire que ce monde-là se pense comme étant uniquement composé de personnes cisgenres. En découle plusieurs choses extrêmement problématiques, à savoir que toutes les personnes qui ne sont pas cis ont de fait une vie de merde, remplie d'agressions, de rejets et compagnie. Ça rend du coup la transphobie comme étant structurelle et systémique, donc elle se retrouve à tous les niveaux. C'est formidable, mais ça crée aussi quelque chose de moins visible et de plus insidieux, mais qui de fait aussi fait partie de la transphobie, c'est que ça va créer un discours où le caractère cis-normé va s'intégrer partout, et que du coup il y aura un lien qui va passer pour biologique, alors qu'il n'est que social, qui va lier appareil génital à identité de genre, qui va rendre biologique un lien social. On va dire qu'ici, lutter contre le sexisme, c'est arrêter de dire que tel genre n'est pas lié forcément à telle attitude. Ça, c'est plutôt intégré dans les milieux féministes et les autres milieux militants. Aller plus loin, ça voudrait dire que telle physionomie, tel corps n'est pas lié non plus à un genre particulier. J'entends par là que beaucoup de militantisme, notamment les luttes féministes, sont extrêmement cissexistes, et c'est catastrophique de voir que toutes les personnes militantes vont discuter du cissexisme et de la transphobie, mais dès qu'on va aborder un sujet, par exemple l'IVG, ces personnes-là vont directement lier l'IVG comme étant un droit des femmes. Et de fait, moi j'ai quantité de copains qui ont leurs règles, ont un utérus fonctionnel et seraient même un jour d'être enceintes, parce que les hommes peuvent être enceintes. Et moi, ça me fait extrêmement mal de voir du coup des militantismes qui sont informés des questions trans, le mènent en application quand c'est possible. Mais dès qu'il y a un souci, on va dire, d'être le ou la plus clair possible publiquement, vont sciemment invisibiliser les personnes trans. On peut citer par exemple tous les organismes un peu militants, mais qui sont des associations d'État, donc essentiellement du coup les associations LGBT, les courants féministes mainstream, les plannings familiaux, qui sont de fait au courant un minimum de toutes les questions, mais qui du coup vont mettre en avant les mariages entre personnes du même sexe pour parler de personnes du même genre, parce que je suis désolé, ça fait très longtemps qu'un homme et un homme peuvent se marier, à condition que ces deux hommes n'aient pas la même assignation à la naissance. C'est douloureux d'entendre des personnes LGBT parler encore de ce terme-là. C'est douloureux d'entendre les plannings familiaux parler de l'IVG comme étant un droit des femmes. C'est douloureux de voir dans les milieux lesbiens ou les milieux gwyn toute l'image et toute l'adoration qu'il y a pour la vulve ou on va dire ou la chatte, ce que tu veux. Alors que de fait, dans ces milieux gwyn et lesbiens, il y a aussi des personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas ça du tout entre les jambes, et c'est des, du coup, ça fait, enfin, ça fait mal. Et pourtant, on sait très bien que les personnes en face sont très informées, mais dans un souci, on va dire, militant, vont invisibiliser notre lutte militante, nous, personnes trans. Et c'est franchement dommage. Avoir un discours qui fait penser qu'au niveau universel, chaque personne est une personne cis, c'est volontairement ou pas invisibiliser toutes les personnes qui ne le sont pas. Et du coup, c'est une forme de transphobie. C'est pas la transphobie de la personne qui ira te casser la gueule parce que tu es une personne trans, mais il n'empêche que ça en demeure une forme, et une forme vraiment insidieuse et qui peut faire mal au quotidien quand c'est des personnes qui sont en plus concernées. Et moi, j'ai autant, j'ai de la patience et je peux faire beaucoup de pédagogie et de discussions avec des personnes non informées sur ces questions-là, leur montrer que, bah oui, on peut être enceint et être un mec, on peut être une meuf et pisser debout sans pisser debout, on peut, voilà, il y a ce genre de choses. Et autant, j'ai strictement aucune patience avec les personnes qui sont informées, mais qui sciemment vont, sous prétexte de rendre certaines luttes plus visibles et plus accessibles, vont sciemment rendre le monde encore plus sexiste.
Je ne suis pas homosexuel, Fred.
Hey, arrête de me niaiser, c'est tabarnak.
Ok, Fred, c'est pas que j'aime les hommes. C'est que je suis pas fait pour en être un, et c'est différent. Hein ? Tu vois, ça, c'est pas moi, ça non plus, c'est pas... Ça non plus, ça me dégoûte, c'est pas moi, ça, Fred. Ça fait 35 ans que je vis comme ça, et c'est un crime. Et j'escrime sur la conscience. Et je suis un chien de voler sa vie à cette personne.
Qui tu voles sa vie, Laurence ?
À celle que je suis né pour être.
Est-ce que tu peux expliquer la notion de passing ?
Le passing, c'est le regard extérieur, social, que les gens vont porter sur une personne, et qui va être un regard catégoriel. Donc, tu vas ressembler à, tu vas passer pour... encore une fois, les trajectoires et les transitions des personnes trans ne sont, en théorie, que les leurs. Et si moi, par exemple, j'ai décidé d'avoir une trajectoire hormonale, en tout cas pour l'instant j'en suis encore là, c'est parce que j'avais besoin, moi, de modifier des choses dans mon corps pour que mon reflet me corresponde plus, que je sois plus en paix avec ça, qu'il y ait moins de dysphorie de genre et que je sois plus forte intérieurement parce que moins atteinte au quotidien. Voilà. C'est une chose. C'est-à-dire que moi, je peux me permettre personnellement de me valider, me dire aujourd'hui je me sens belle ou je me sens en adéquation avec moi-même. Ça, c'est une chose. Je me le permets. Par contre, que le monde extérieur ou le monde militant viennent me voir et me fassent « Elsa, waouh, aujourd'hui, on dirait trop une meuf. » Déjà, un, j'étais déjà une meuf quand j'avais de la barbe, de fait. Et puis deux, c'est encore un contrôle normatif. Donc ces personnes-là, qui en plus, la plupart du temps, sont cisgenres, vont, sous couvert de flatterie, sous couvert de choses comme ça, vont en plus te donner ou pas le ticket pour « Bravo, tu es validé ». De fait, c'est horrible parce que c'est bravo, tu ressembles à une personne cis. Je me transforme mon corps selon mes envies et mon ressenti. j'ai pas du tout envie de passer pour une personne cis. Moi, si j'agis en tant que personne militante, c'est pour que publiquement les gens voient que je suis pas une personne cis, donc éventuellement une meuf trans, et que ces gens-là l'acceptent, et c'est tout. Et n'en fassent pas tout un foin. Voilà. Moi, j'ai pas du tout envie de me cacher dans une catégorie. Je peux faire le lien, il est un peu simple, mais une personne non blanche, donc racisée, qui va subir du racisme, j'imagine que son militantisme, ça va être de se faire accepter comme une personne racisée ou non blanche, et non pas de passer pour une personne blanche. Voilà, ben moi c'est exactement pareil. J'ai envie que publiquement je sois une meuf trans et qu'on m'accepte comme ça.
Alors, tu te présentes très clairement comme une militante. Est-ce que tu peux me parler de ton militantisme ?
Alors, je n'ai plus de travail officiel, on va dire rémunéré, tout ça. Ce qui fait que ça me laisse énormément de temps, pour moi aussi, me faire du bien. Déjà ça, je prends du temps pour moi, ce qui est une excellente chose. Ça me permet d'aller bien, ça me permet d'avoir de l'énergie, ça me permet d'avoir de la force, ce qui est important pour le reste de ma vie, à savoir du militantisme, entre autres, hein, parce que je fais pas que ça non plus. Mais ça me permet du coup de rencontrer des gens, ça me permet de rencontrer des personnes qui sont LGBT, des personnes qui sont trans, des personnes qui sont féministes, de différents courants, et des gens qui sont du coup à l'intersection de plusieurs luttes, donc les luttes on va dire antiracistes, les luttes antisexistes, les luttes anticolonialistes, les luttes pour les personnes trans, les luttes pour les droits des personnes homosexuelles. Voilà, vraiment avoir le temps de croiser différentes luttes, de rencontrer les différents acteurs et les actrices de toutes ces luttes-là, et d'avoir un discours et un militantisme qui soient vraiment à même de ne comporter ou de ne véhiculer aucune oppression. C'est déjà un gros travail. Après, concrètement, dans la vie de tous les jours, c'est du militantisme sur Internet. Ça me permet, ne serait-ce que véhiculer un lexique, de faire véhiculer des idées chez des personnes que je ne serais pas à même de croiser dans mes différents milieux, parce que moi je marche beaucoup par milieu, et c'est vrai que le milieu transpédébigouine ou le milieu LGBT ne va pas croiser les mêmes personnes qu'il y a sur Internet. Enfin, voilà. Ils font fonctionner en différents réseaux. Mon militantisme sur Internet, c'est avant tout de raconter ma vie, donc d'apporter un témoignage concret sur ce que c'est que les difficultés des personnes trans au quotidien. C'est aussi faire un inventaire de toutes les choses qui, moi, me le font pas en tant que personne trans chez le discours des autres personnes. C'est aussi apprendre des autres sur les choses que je ne vis pas. Me remettre en question. Voilà. Après, ces choses-là, ça me permet aussi, du coup, d'apprendre et de lire. Voilà. Et d'apporter ensuite dans le militantisme que j'apporte concrètement dans la rue, dans les squats, dans les rencontres que je peux faire.
C'est quoi le commentaire que t'entends le plus souvent?
Il y en a un qui coiffe tout le monde. Ça, c'est pas plus compliqué que ça, c'est spécial.
Et là, c'est vrai que j'en vois pas tous les jours, moi, mettons, des gars jackés sur des talons. C'est vrai que c'est spécial.
J'ai parlé du coup de différents milieux, j'ai parlé du milieu LGBT, j'ai parlé du milieu transpédébigouine, j'ai parlé aussi du milieu queer, même si moi-même je me définis pas encore comme ça. J'ai des milieux qui ont énormément de points communs, mais et des différences, on va dire, cruciales et fondamentales aussi sur certains détails qui font que des milieux qui se croisent rarement. Si on fait une différence entre le milieu LGBT et le milieu transpédébigouine, c'est que on va dire qu'il y a des fondamentaux qui n'existent pas, par exemple, dans le milieu LGBT. Le milieu LGBT, c'est le milieu lesbien, gay, bi et trans. C'est quatre lettres, mais qui ne devraient pas être écrites à la même taille, parce que c'est avant tout des milieux où pullulent les personnes cis, ou parmi ces personnes cis pullulent avant tout les personnes qui sont gays. Ce qui n'est pas un souci, mais c'est un constat déjà qu'il faut faire. Et que si on regarde un peu plus en profondeur, c'est un milieu qui est avant tout de convivialité, de discussion, mais de retrouvailles, ou festif. Mais c'est pas des milieux de lutte pour moi, c'est pas des milieux militants, et c'est avant tout des milieux où il y a très peu de remise en question, c'est des milieux où il n'y a pas une intersectionnalité des luttes, et il n'y a pas du coup un croisement des réflexions, il n'y a pas de discussion profonde. Ça veut dire que c'est des endroits où les personnes homosexuelles cis vont se retrouver par genre. Donc les gays entre eux, les lesbiennes entre elles. Mais ça va être un endroit où du coup le milieu LGBT où on va m'appeler monsieur, où les personnes bi vont avoir une vie d'enfer parce que déjà dans le monde hétérosexuel, ces personnes-là vont passer pour des personnes on va dire sexualisables, et dans le milieu LGBT on va les remettre en question parce que c'est des personnes qui seraient indécises ou ce genre de choses. Et je passe sur le racisme du milieu LGBT, je passe sur la putophobie du milieu LGBT, je passe sur la transphobie du milieu LGBT. Enfin, pour moi, le milieu LGBT, en termes de connaissances sur les différentes oppressions, il est quasi au même niveau que le milieu hétéro. Pour moi, le milieu LGBT, c'est avant tout des endroits un peu safe pour pouvoir manger entre personnes concernées. Des petits goûters ou des repas. Ce qui est essentiel de créer ces endroits-là, des endroits de repli, mais c'est certainement pas des endroits où va se créer un militantisme qui va faire changer les choses de manière durable, parce que j'ai pas la conviction du tout que accéder au mariage est une manière de faire changer les choses de manière durable. Et le problème, c'est pas le mariage, c'est que l'immense majorité des personnes LGBT qui se disent militantes se sont arrêtées là et ne veulent pas aller plus loin. Or, les personnes trans sont encore obligées de se faire stériliser pour changer de papier d'identité. Énormément de personnes LGBT ne peuvent pas donner leur sang. Il y a encore beaucoup de meurtres de personnes trans, il y a encore des meurtres de personnes LGBT. Et puis il y a plein de gens qui sont dans le placard, voilà. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable, et moi j'ai envie que... ouvertement dans la rue, on puisse deviner si tout le... enfin, on puisse savoir sans trop de difficulté qu'une personne est LGBT ou transpédébigouine et que ça fasse le même effet que de se dire ah bah telle personne est brune ou blonde et que ouais, c'est un facteur, qu'il faut l'accepter, mais que ça n'engendre derrière aucune différence de traitement. Et moi, j'ai pas la conviction profonde que le milieu LGBT ait cette volonté-là actuellement. Une autre différence qu'il y a entre mon militantisme transpédébigouine et ma vision que j'ai du militantisme LGBT, c'est entre autres le rapport à la violence et au temps. Et moi, je le dis souvent, c'est que pour un changement durable et profond, il faut des Black Panthers et il faut des Rosa Parks. Ça veut dire qu'il faut des gens qui sont patients, dans l'attente, et il faut des personnes qui sont... à l'inverse de ça, plutôt dans l'offensif. Moi, je me situe plutôt dans cette partie-là. Ça veut dire que je suis pas LGBT et moi, mon militantisme, il est pas du tout dans la non-violence et dans l'expectative ou ce genre de choses. Mon militantisme, il est violent et il est offensif. Enfin, ça veut pas pour autant dire qu'il est dans l'agression et dans l'injustice, non du tout. Mais je suis profondément convaincu que il faut... voilà, moi, je suis habité d'une rage vis-à-vis de ce que j'ai vécu, machin truc. Et que j'ai besoin voilà, de me servir de cette rage-là pour avancer. Et c'est un truc qui est positif et qui a un moteur d'énergie et de changement.
Et justement, là, tu parlais d'une personne qui te disait « Oui, mais tu catégorises cis, trans, mais pareil. » Justement, qu'est-ce que tu aurais...
dans les milieux, on va dire, féminisme, mainstream, machin, c'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est qu'on va me dire « Écoute, Elsa, arrête avec tes réflexions catégorielles, cis, trans, machin, on est tous humains, blabla. » Donc c'est ce que j'appelle des réflexions qui sont humanistes. C'est donc des réflexions qui sont pacifistes et non-violentes, officiellement, sont d'une incroyable violence par rapport à ce que moi je pourrais dire. Du coup, je l'invite cette personne à aller cueillir des fleurs et d'aller faire autre chose. Mais surtout, c'est me cracher à la gueule que les privilèges que cette personne peut jouir n'existent pas. Nier les différences de traitement entre personnes trans et personnes cis, nier les différences de traitement social entre une personne qui est blanche et une personne qui ne l'est pas, c'est nier les oppressions. Et donc, de fait, ce discours-là, qui est un discours non-violent, est d'une incroyable violence.
Il y a eu cette catastrophe qui s'est abattue sur nous de la manif pour tous. J'en ai un peu après les journalistes qui n'ont pas repéré que ces catholiques intégristes s'attaquent aux trans. On est une de leurs cibles préférées. Quand vous avez une pancarte avec écrit « Ma maman » s'appelle Robert. Moi, je pense à quelque chose. Je pense à une amie que j'ai qui n'a pas vu son fils depuis 30 ans parce que, au moment du divorce, parce qu'elle avait changé de sexe, sa femme a obtenu la garde des enfants et qu'elle n'a pas pu voir son fils depuis.
Est-ce Est-ce que tu peux développer cette notion que tu as mentionnée d'intersectionnalité ?
Je ne suis pas une grande spécialiste. C'est avant tout pour moi un excellent moyen d'aller plus loin. Après, je ne suis pas experte sur l'origine de ces luttes-là. Je sais que ça vient des États-Unis, de Stonewall, des émeutes du coup qu'on conduit à ce qu'on appelle maintenant la marche des fiertés, où il y avait du coup des personnes trans, des personnes non blanches, des putes, des PD, des gays, des lesbiennes, des gouines, des bi, qui étaient dans la rue et qui ont créé des émeutes, voilà. Et pour moi, ça, c'est le reflet que si on veut faire changer les choses de manière durable, il faut prendre en compte toute la diversité des personnes qu'on a en face. C'est pas parce qu'on est trans qu'on est que trans. On peut être trans et gouine. On peut être trans et être hétérosexuel. On peut être gay cis et pourtant connaître d'autres oppressions que l'homophobie. On peut être victime de, je sais pas moi, de discriminations liées par exemple à la couleur de la peau. Cette personne-là peut vivre des discriminations liées à un handicap éventuel, qu'il soit physique ou mental. Du coup, moi, si dans la base de départ c'est les luttes LGBT et trans PD Bigwine, je peux pas uniquement me concentrer sur ça. Il faut prendre toute l'éventualité des luttes qui est en face, les incorporer, les réfléchir de manière commune et intersectionnelle, et voilà, croiser les luttes et voir qu'est-ce qu'on peut faire une fois que on a ça, ce constat devant les yeux. Enfin, moi, je suis une personne trans, j'ai des papiers, je suis blanche, j'ai, on va dire, un milieu de vie qui est plutôt aisé, j'ai un bagage culturel qui est plutôt lourd, j'ai pu faire des belles études, tout ça, il faut le prendre en compte. Voilà, c'est pas parce que je suis une personne trans que je suis forcément en bas de la pyramide des oppressions. Et du coup, s'il y a un changement, il ne peut être que global, pour qu'il soit de manière durable et de manière profonde. Alors, est-ce que depuis 20 ans, les choses ont changé ? Si j'étais une personne cis homosexuelle, oui. Je pourrais toujours pas donner mon sang, mais je pourrais me marier. Certains droits comme ça qui sont acquis, et j'espère de manière durable. Donc oui, ça a changé. Depuis 1985 ou 83, l'homosexualité n'est plus pénalisée. Les personnes homosexuelles cis peuvent se marier. Je pense que ces personnes-là vivent moins d'homophobie au quotidien, même si c'est toujours inacceptable et même si l'homophobie est encore largement beaucoup trop présente, et elle sera toujours trop de toute façon. Mais c'est beaucoup plus vivable actuellement qu'il y a 20 ans. Pour le cas des personnes trans, 20 ans en arrière, ça correspond à un voyage en temps qui se correspondrait de, je sais pas, de 500 ans, parce que l'état des luttes des personnes trans c'est un état qui est naissant, même si on peut les chercher à 40 ans, 50 ans en arrière, les premières personnes trans ouvertement, on va dire, affichées comme telles, il reste quantité de choses à faire pour les luttes trans. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le parcours médical pour accéder à un changement d'état civil est encore extrêmement difficile et douloureux. La transphobie au quotidien, c'est hardcore. Et puis le constat est que même si moi et d'autres personnes en arrivent vraiment publiquement à se faire entendre, le constat est que le monde il est encore cis-centré et que personne ne connaît rien aux luttes trans. Alors, les gens peuvent s'imaginer ce que c'est qu'un mariage entre personnes du même genre, même si ces personnes-là vont appeler le mariage entre personnes du même sexe. Mais pour que qu'une personne lambda prise dans la rue comprenne qu'une personne trans n'est pas une personne qui serait atteinte d'une maladie mentale, qui serait pas en plus accompagnée de déviance sexuelle, voire criminelle, il y a encore des années de lutte à faire. Et bah, ça tombe bien, j'ai l'énergie, le temps et le courage pour, mais il y a encore du travail, il y a de quoi se lever tôt pendant encore quelques centaines de journées, voire quelques milliers de journées.
Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des parents qui viennent d'apprendre que leur enfant est transgenre et qui seraient bouleversés
J'imagine que des personnes qui font un enfant, que ce soit un papa, une maman, un papa, on s'en fout, font un enfant parce qu'ils désirent faire un enfant et ils désirent aimer cet enfant. Et il ne faut pas aimer l'enfant tel qu'on veut qu'il soit ou qu'elle soit, mais il faut aimer l'enfant tel que cette personne se définit. Ça veut dire que si cette personne se sent garçon, fille ou autre, eh ben il faut l'accepter. Si cette personne-là veut faire des études courtes alors que les parents avaient toujours posée qu'il faut faire des études longues pour réussir dans la vie, ben non, il faut l'accepter. Si cette personne-là s'affiche ouvertement plus tard comme étant lesbienne, il faut l'accepter. C'est tout. Enfin voilà, ça va pas plus loin. Si vous voulez que l'enfant vive bien, se sente bien, se sente aimé, se sente entouré et la meilleure vie possible, loin de la dépression, loin du suicide, loin de toute cette merde, bah, il faut juste accepter que son enfant peut être différente ou différent de ce qu'on avait projeté. Enfin, c'est le cas tout le temps, de toute façon, à plus ou moins grande échelle, mais il faut l'accepter, c'est tout. We'll be right back.
has your band begun to roll?